I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand-mère, grand-mère, j'aime quand tu me racontes des histoires. Grand-mère, grand-mère,
je suis vieille et je vous en prie avec mon look de libellule.
Il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire et après tu meurs.
Ça peut aider pas mal le senior par rapport à tous les bobos du troisième âge et sûrement du quatrième âge. Parce que qu'est-ce qu'ils se font chier dans les EHPAD ? J'ai visité un EHPAD quotidiennement pendant 5 ans. Où était mon père ? Je me disais, mais c'est pas possible. Il faut les réveiller un petit peu. Il y a des espèces de zombies complets, presque tous sous antidépresseurs de par force. C'est horrible. Il faut filer de l'herbe à tout le monde.
Allez, distribution générale. On arrête les cachetons et on mange sa banane. Et une bouchée pour le fiston, et une bouchée pour le médecin, et une bouchée pour le sourire.
Philippe, que vous venez d'entendre, a 66 ans. Il est l'un des nombreux seniors qui ont recours au cannabis pour adoucir leur quotidien, à un âge où la vie n'est plus toujours très tendre.
Alors on a voulu en savoir plus sur ceux qui, arrivés à l'âge de la sagesse, ont décidé de se mettre au chichon. Papy et Mamie Stoner, c'est l'épisode 13 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
Salut Camille.
Salut Christophe et salut à tous. Nous revoici pour un nouvel épisode dossier de Banana Kush, un épisode que l'on a eu envie de consacrer à nos aînés.
Et oui, parce que qui a dit que la weed c'était un truc d'ado, un truc de jeune en rébellion contre la société ?
Eh bien certainement pas la célèbre Mischka Seliger-Chatelain, 76 ans. Cette Française connue mondialement comme la grande dame du cannabis est l'autrice de plusieurs livres cultes sur la plante. Le premier est paru en 1978.
Mais il n'y a pas que les années 70. En réalité, les anciens sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à consommer du cannabis. Et si en France on manque de données, aux États-Unis, les études se multiplient récemment. D'après celles menées par l'entreprise VeriLife, les boomers de 57 à 76 ans sont deux fois plus nombreux à consommer du cannabis à des fins médicales que les millennials de 22 à 38 ans, qui eux évidemment sont plus portés sur le récréatif.
Car la question thérapeutique est la première qui se pose lorsque l'on parle de nos vieux. C'est un enjeu majeur face au désagrément de la vieillesse et à des pathologies parfois plus lourdes encore. D'autant plus que la France vient de donner son feu vert à l'expérimentation du cannabis médical, à compter du premier trimestre 2021.
Alors dans cet épisode spécial de Banana Kush, on a tendu le micro à des plus de 60 ans, consommateurs de longue date ou nouvellement initiés, pour qu'ils nous racontent leurs usages, leurs habitudes. Et on a évidemment interrogé aussi un médecin pour éclairer ses témoignages.
Et puis, vous nous avez confié vos meilleures histoires de papy et mamie stoner.
Salut Banana Kush, et je suis trop contente que vous soyez de retour, bravo.
Moi c'est une histoire avec ma grand-mère. En fait, elle est super, elle s'appelle Marthe, mais elle préfère qu'on l'appelle Renée. Elle habite en Aveyron.
C'est toi, ma petite Pocahontas.
Et c'est une cascadeuse, quoi, tu vois. Elle trouve toujours moyen de se casser la gueule chez elle ou dehors. Enfin, bon, voilà. Et puis, parfois, elle est un peu stressée parce que, bon, la vieillesse, la mort, tout ça. Et donc, une fois qu'elle s'était cassé la hanche, encore une fois, en tombant dans l'escalier... et qu'elle souffrait, donc je me suis dit que du CBD lui ferait peut-être du bien. Et alors, je lui ai trouvé une super tisane au CBD, plusieurs goûts, il y avait un assortiment comme ça, et je lui ai offert pour Noël, c'était à Noël dernier, et sans lui dire que c'était du CBD, parce que je la connais, elle peut un peu flipper dès que c'est pas conventionnel, les choses.
Mais grand-mère Feuillage, quel est le droit chemin ?
Et comment savoir où il se trouve ?
Et en fait, elle a adoré ça. Quelques mois plus tard, elle m'appelle, on discute et puis elle me dit « Dis donc, ta tisane, là, elle était super et tout, j'ai pu bien dormir. En plus, ça m'a soulagé mes douleurs et elle était vraiment géniale. Mais alors, par contre, je suis emmerdée parce que je la trouve pas à Leclerc. » Mais résultat, c'est efficace et ça fait plaisir à nos mamies.
Pour mieux comprendre la consommation des seniors, nous avons recruté 4 profils, 4 parcours, tous avec des histoires différentes, mais avec 2 points communs. Ils consomment du cannabis et ils ne sont pas nés de la dernière pluie.
La première, c'est Fabienne. Fabienne a 64 ans. Elle est la fondatrice de Principe Actif, une association qui milite pour la légalisation du cannabis thérapeutique après avoir longtemps milité au cirque. Bref, Fabienne et le cannabis, c'est une histoire qui remonte.
Ma première expérience, c'est à 17 ans, en 73 au Maroc. En fait, je corresponds à une génération qui a découvert le cannabis dans les années 70. Ensuite, c'était plutôt récréatif. À l'époque, on n'en trouvait pas facilement tout ça, donc on ne peut pas dire que c'était une consommation très suivie. Et puis, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer, donc je suis guérie, je suis en rémission. Et c'est là que j'ai réellement découvert, en tous les cas pour moi, les effets thérapeutiques du cannabis. Moi, je l'utilise quand j'ai encore mal, parce que les effets secondaires des traitements qu'on vous donne et qui vous guérissent du cancer, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles, des douleurs osseuses, des douleurs musculaires. Et j'avoue que je ne me gêne pas non plus de vaporiser de temps en temps du cannabis parce que je trouve que c'est sympa et voilà quoi.
L'histoire de Fabienne, c'est donc celle d'un usage récréatif devenu en partie thérapeutique les années passant. Mais ce n'est pas le cas de tous les seniors consommateurs. Mado a 66 ans. Elle préside l'association Apaisé, qui représente des patients atteints de 2 pathologies rares de la moelle épinière et du cervelet, la syringomyélie et la malformation de Chiari. Des pathologies qui induisent des douleurs neuropathiques sévères et quotidiennes. Après des années d'errance médicale, le cannabis a été pour elle une délivrance.
Moi, j'ai recours au cannabis depuis 3 ans. Je ne connaissais pas du tout le milieu du cannabis à l'époque. Ça a été vraiment à 63 ans, donc une initiation, je dirais. J'étais en traitement avec des traitements très lourds, de morphinique, d'antiépileptique, d'antidépresseur et d'opiacé. Et sans résultat. Et puis, dans mon entourage, j'ai un médecin qui, à un moment donné, n'en pouvant plus de me voir souffrir. Faut bien vous dire que la douleur neuropathique, c'est comme si vous sautiez dans un champ d'ortie tous les matins. Donc, c'est quelque chose de particulièrement difficile à vivre, qui vous met complètement à côté de la société, même si moi, j'étais déjà présidente de l'association et déjà active, mais avec des moments de repli sur soi qui sont très importants. Et j'ai tout simplement fumé un joint, on m'a donné à fumer un joint. Je n'y croyais absolument pas. Et j'ai été soulagée très rapidement, en un quart d'heure. Les douleurs se sont complètement escomptées. Je n'avais jamais fumé ni de cannabis et du tabac. Je n'en avais pas pris depuis mes 17 ans. Donc c'est pour vous dire, pour moi, c'était une toute première fois. Ensuite, j'ai cherché d'autres systèmes que fumer parce que j'ai réservé mes poumons pendant tout ce temps-là, pendant 67 ans. Je n'avais pas envie de les bousiller. Et donc, j'ai commencé à l'utiliser d'autres façons. En décoction, ça consiste à chauffer très lentement dans un produit ayant de la graisse, de la fleur. Je n'ai jamais eu d'effet de type bad trip ou comme ça. Même léger euphorisation, je n'ai jamais eu. Alors, je suis peut-être résistante à ça. Cela dit, je suis extrêmement prudente. Par contre, j'ai entendu des patients dire qu'ils en avaient. C'est-à-dire qu'ils en avaient pris trop. Ou parce qu'ils n'avaient pas eu d'effet au bout d'une demi-heure, en reprenant une dose, et à ce moment-là, effectivement, ils avaient un bad trip. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on milite pour avoir des produits reproductibles. Parce que des patients âgés comme nous, qui en plus parfois sont polymédicamentés ou ont des polypathologies, si on prend des produits qui ne sont pas toujours les mêmes et pas de la même façon, on peut avoir des effets secondaires qui ne seraient pas souhaitables.
Ça fait donc 5 ans que l'association de Mado, Apaisé, milite pour la légalisation du cannabis thérapeutique en France. Une initiation et un combat qui lui ont fait changer son regard sur cette plante.
Et c'est vrai qu'auparavant, pour moi, le cannabis, alors effectivement, on avait des enfants qui se fichaient de nous un peu parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le cannabis, mais c'était pour moi une drogue, quoi. Je n'avais pas été plus loin que ça. Donc je me suis aperçue qu'on n'était pas aussi dépendant que ça au cannabis, et moi d'ailleurs, je ne le suis pas du tout. Si j'ai pas mal, j'en ai pas besoin. Alors que si j'avais pas mal, et quand j'étais sous tramadol, j'avais quand même besoin de prendre du tramadol.
Notre troisième senior s'appelle Anne. Elle a 74 ans, c'est la doyenne de notre panel, et son cas est encore différent puisque Anne, elle, consomme de moins en moins avec les années.
Je consomme du cannabis depuis longtemps. Hein. Je crois que mon premier joint, c'était en 1969. Je n'ai jamais arrêté, en fait. J'ai toujours consommé du cannabis de façon pas forcément régulière, mais j'en ai toujours consommé. Depuis plus de 10 ans maintenant, après un traitement hépatite, je suis devenue cible à tous les psychotropes, que ce soit d'ailleurs le cannabis ou l'alcool. Et donc, je consomme actuellement de façon très, très occasionnelle. Bon, c'est un plaisir pour moi. Je le fais avec des amis avec lesquels je suis contente de passer une soirée. Mais je fais très attention de consommer des toutes petites quantités. Je tire des petites taffes, 2 taffes d'accord, mais 3 taffes, attention, je risque d'avoir des vertiges, d'avoir besoin de m'allonger. Et quand je suis seule, je consomme quasiment pas parce que j'ai des troubles de mémoire et que le cannabis augmente ces troubles de mémoire. Je ne sais plus où sont mes lunettes, mes clés. Mais je n'ai pas besoin du cannabis pour être bien. Donc, ça n'est pas un usage thérapeutique et j'en ai pas besoin. C'est juste un plaisir comme peut l'être éventuellement un verre de vin ou c'est un plaisir que l'offre rarement. Voilà.
Et pour finir, on a discuté avec le seul papy de notre bande. Vous allez voir, c'est encore une autre histoire.
Je m'appelle Philippe, j'ai 66 ans, je suis retraité. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, un vrai papy. J'habite au fin fond de la Lozère et je me sers du cannabis d'une façon franchement thérapeutique maintenant, je m'en rends compte. Ça me permet d'avoir une vie débarrassée de tout phénomène d'hyperanxiété ou de dépression, qui est quand même quelque chose qui me colle aux fesses. Suite, il faut l'avouer, à un usage pas tout à fait sage de drogue dure. Je suis abstinent maintenant. Ça fait 30 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Ça fait 30 ans que je n'ai pas touché à l'héroïne. Et donc... Sans l'aide du cannabis, ma vie est vraiment pas marrante. Bon, encore le matin, ça va, mais alors à partir de 2h de l'après-midi, je commence à être anxieux. Je vis avec une anxiété généralisée, on va dire permanente, mais totalement maîtrisée par le cannabis. Si j'ai pas le cannabis, eh ben je mange du Valium. Et puis après, ça se termine comment tout ça, hein, les benzos sur les vieux, ça donne des cols du fémur. Ce ne sont pas les médecins qui m'ont parlé du cannabis et qui m'ont conseillé d'en prendre. Mais par contre, lorsque je leur ai dit que je consommais et la quantité que je consommais quotidiennement en plus de leur traitement, m'ont encouragé à continuer ainsi. Le premier qui m'a surpris d'ailleurs, ça a été l'hépatologue qui me suivait pour mon hépatite C. Lorsque je lui ai dit que j'étais consommateur de cannabis et en vaporisation, sa réaction a été « Ah !» Ben c'est quand même une chance parce que au moins vous ne ferez pas partie des gens qui abandonnent le traitement tellement celui-ci est dur.
Et ça lui a plutôt réussi à Philippe. Depuis plusieurs années, il s'est stabilisé en établissant son propre protocole.
D'abord, je vaporise, je fume plus. Je me fais un premier vapeau le matin, disons vers 8h30. Quoi. Je me lève entre 7h et 7h30. Et ça me met vraiment la patate d'un seul coup. Je me dis, bon, allez, bon, à l'âge que j'ai, le corps m'a un petit peu plus de temps à se réveiller. Disons que c'est ce qui me fait démarrer. Je ne sais pas si le fait d'avoir un produit qui vous euphorise légèrement, c'est quand même thérapeutique sur une dépression. Donc là, pour moi, il n'y a pas spécialement de récréatif. Là où on pourrait dire qu'il y a du récréatif, c'est cette espèce de malaise dont je vous parlais vers 18h, 19h. C'est assez marrant parce que c'est l'heure à laquelle les gens prennent l'apéro. C'est-à-dire qu'ils se font un petit shoot d'alcool à cette heure-là. Mmh. Moi, dans ma famille, mes parents étaient alcooliques, mes grands-parents étaient alcooliques. Ma mère, 7h, c'était l'heure du whisky. Bon, moi, je ne veux pas. Il est hors de question que je boive une goutte d'alcool. C'est un truc, ça m'a tellement rendu malheureux dans ma vie que je ne veux pas retourner à ça. Donc, je remplace l'ivresse que l'alcool m'aurait apporté, si vous voulez. Je la remplace par l'ivresse du cannabis. J'arrive pas moi-même à faire la part entre le thérapeutique et le récréatif. Là. C'est totalement subjectif comme appréhension du problème.
Banana Kush.
Je suis un vieux motherfucker.
Camille Diao, Christophe Payet.
I'm just an old motherfucker.
Fabienne, Mado, Anne, Philippe, des parcours, des usages, des enjeux différents face au cannabis, mais un point commun, celui d'être un senior qui consomme et qui assume. Et à les entendre, ils ne sont pas les seuls.
Vous avez énormément de personnes qui ont passé 60 ans.
Fabienne, fondatrice de Principe Actif.
Et qui découvrent effectivement les effets du cannabis au niveau thérapeutique. Quand on vieillit, ça réduit un petit peu les douleurs liées à l'arthrose, les petits rhumatismes, les choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup de seniors dans cette consommation. Souvent, ce sont des gens aussi qui réalisent que finalement, fumer, même si c'est pas la meilleure des formes, fumer un petit joint de temps en temps, c'est pas si grave que ça. On en parle comme d'une drogue dangereuse et eux réalisent, passé 60 ans, que tout ça, c'est un peu du pipeau.
C'est sûr qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour les personnes âgées.
Mado, présidente de l'association Apaisée.
Et la plus grosse demande aujourd'hui que j'ai, alors c'est vrai que je suis pas non plus jeune, donc peut-être que j'attire pas les jeunes, mais la plus grosse demande aujourd'hui, c'est des personnes âgées. Mais quand je dis âgées, c'est très âgé. C'est-à-dire, on est au-delà du 80 ans. Je pense que dans les appels que j'ai eus, je suis passée dernièrement d'une émission de télévision, là, Enquête de santé, les appels que j'ai eus étaient à 90% des personnes de plus de 80 ans. Et j'ai dû avoir, je sais pas, une cinquantaine d'appels.
Du point de vue récréatif, ça permet de... Enfin, moi, je l'ai vécu comme une forme de libération.
Anne, consommatrice depuis 1969.
Finalement, c'est un voyage. Cette découverte à n'importe quel âge, et en particulier quand on est à la retraite, quand on a moins de contraintes sociales, c'est à la fois vivre plus près de ses émotions, du côté récréatif et du côté thérapeutique. Le cannabis fait partie des drogues qui peuvent accompagner la vieillesse. Chez les Chinois, on réservait la consommation de l'opium aux personnes âgées. Et je pense que c'était une très bonne idée.
Ce qui serait bien, c'est que les seniors se réveillent un peu
Fabienne.
Et fassent preuve d'un peu moins d'hypocrisie. Alors, ça commence avec les États-Unis. Il y a eu l'effet de tsunami, forcément, de voir des personnes âgées en parler, etc., de manière très décontractée. Ça va avoir un impact aussi ici. Non, on n'a plus rien à prouver, on a élevé nos gosses, ça s'est pas trop mal passé comme tout le monde, on a fait notre carrière en matière d'emploi, donc moi j'ai 64 ans et j'ai face à moi des gens qui me disent « Ah oui, mais vous savez, c'est un problème pour les jeunes, il faut pas fumer avant 15 ans. » Qu'on légalise, qu'on pose des règles, comme pour l'alcool ou le tabac, et puis on aura moins de problèmes aussi.
Banana Kush.
Yes, we have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
Au fait, Camille.
Ouais.
Est-ce que t'as déjà fumé un joint avec ta grand-mère?
Alors là, absolument pas.
Et est-ce que tu pourrais le faire?
Peut-être dans une autre vie. En tout cas, nos quatre seniors, qui ont des enfants, parfois des petits-enfants, ont tous eu à se poser ce genre de questions. Et notamment Philippe, qui est, je vous le rappelle, 5 fois grand-père.
Ça n'a jamais été un souci entre moi et mes enfants. Ça a toujours été, on en parle. Mais de toute façon, je ne me suis jamais caché. Mon fils aîné habite à Paris, dans le 6e. Je veux dire, les gamins, ils me voient sortir sur le balcon pour faire mon... préparer mon vapeau, je grille mon truc, ils me disent « c'est quoi ?» Je leur dis « écoutez, c'est une herbe médicinale, je me soigne. »
Mon amie a une fille, je partage volontiers un joint avec elle.
Anne a 74 ans.
Bon, les petits-enfants, ça dépend de leur âge. Quand même une expérience plutôt personnelle, on peut se rejoindre peut-être à un moment donné et partager un joint, ça peut tout à fait se faire, mais c'est pas à nous d'initier les jeunes. Je pense que c'est le cas, moi je le ferai pas.
Nick, la radio.
Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la crème...
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
Il y a une dernière question qu'on a posée à Anne, Mado, Philippe et Fabienne. Comment se fournit-on en cannabis quand on a 60, 70, voire 80 ans? Eh bien, spoiler, ce n'est pas toujours évident. Écoutez Mado.
Alors, le problème, il est là. Je ne connaissais pas les réseaux, en quelque sorte. J'ai la chance d'avoir un effet. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les patients. Ce qu'on appelle un effet rémanent, c'est-à-dire que si j'en prends 2 jours de suite, je peux avoir un effet sur deux semaines, trois semaines, comme si ça faisait chez moi un reset en quelque sorte, hein, au niveau de la douleur. Donc, j'en ai pas besoin de beaucoup. Mais à chaque fois, je suis obligée de demander à des jeunes de m'en fournir et eux-mêmes se fournissent par des copains qui cultivent, quoi. Hein. Faut dire ce qu'il en est. Hein. J'ai beaucoup d'appels de personnes qui me disent, mais à des âges très avancés, quand je vous parle d'âge avancé, là, j'ai eu un monsieur de 91 ans quand même dans la semaine, hein, qui disent, bah, moi, j'habite dans le 9-3, je vais aller dans la zone, je vais aller en chercher. Et moi, je me demande aussi dans quel danger ils se mettent, quoi, hein, parce qu'ils sont pas habitués. Donc, c'est une question énormément que je me pose, effectivement. Mm-hmm. Et j'ai aussi des patients qui m'appellent pour me demander si je peux leur en fournir. Moi, je ne peux pas leur en fournir. Je suis incapable de leur donner un réseau.
Oui, mais attendez, dites donc, c'est de la marijuana. Non, vous pourriez avoir des ennuis, parce que c'est interdit de faire pousser de la drogue. Hein.
Interdit par qui? Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal, hein? Qui?
Oui. Pas personne.
Je pense que si on n'a pas eu une consommation qui a démarré quand on était jeune, par exemple.
Fabienne, consommatrice depuis 1973.
Oui, c'est plus compliqué d'aller effectivement en acheter en extérieur. Mais il y a plein de gens qui passent le pas, hein, aller acheter. Il faut aussi peut-être redescendre un peu de tous ces clichés qu'on a sur les gens qui vendent du cannabis en cité ou dans les quartiers où on en trouve facilement, en banlieue, etc. Ce ne sont pas des coupes-gorges. Hein. Le seul problème, c'est la police, en vrai. Ce qui peut vous arriver, c'est de vous faire repérer par la police qui va vous arrêter une fois que vous êtes revenu avec votre petit paquet sur vous. Ce qui est plus gênant, c'est de s'apercevoir que ceux qui vous vendent sont très jeunes. Est-ce que c'est normal que ce soit un mec de 15 ans qui me vende du cannabis? La réponse, c'est non, bien sûr.
Et alors là, où je les emmerde, moi? Ceux qui interdisent, c'est que je la fume pure.
Moi, je vis seul, 66 ans, au fin fond de la campagne.
Philippe.
Je fais pousser ma propre consommation. Moi, je passe au tribunal pour usage et détention. Et donc, je vais m'expliquer avec cette substitut. Et j'ai l'aplomb nécessaire. C'est effectif qu'à 66 ans, je n'ai pas à me justifier. Je m'en fous.
Goûtez-moi ça.
J'aspire, mais j'avale pas.
C'est ça, j'avale pas. Pauvre cul.
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
C'est notre petit secret.
Banana split for my baby. A glass of plain water for me.
En fait, il y a eu ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère, qui est décédée à l'âge de 92 ans de vieillesse. Donc on se retrouve tous pour l'enterrement à la sortie d'un restaurant. Là, il y a mon oncle qui me rejoint, donc le frère de mon père. Et là, du coup, il y a mon grand-oncle, le fils de la personne qui était décédée, qui, de sa poche, sort un gros pétard, vraiment le gros pétard américain. Il sort son gros pétard et il nous dit « Est-ce que vous voulez qu'on fume ?» Du coup, on fume et pour le coup, moi qui fume régulièrement, j'ai jamais connu une plante aussi pure, c'était quelque chose de fou puisque c'était impur. Et là, en fait, on arrive à l'église et on me dit bah, « Tiens, prends le plus gros bouquet de fleurs et c'est toi qui vas rentrer dans l'église. » Avec les fleurs dans la main, mon cousin sur ma droite, je rentre dans l'église. L'église est blindée, il y a le Ave Maria en fond, d'une puissance complètement fou. Je sens le Ave Maria et j'avance dans l'église, complètement défoncé. C'est rigolo comme situation et en même temps, le moment est tellement fort. Trois générations, mon grand-oncle, mon oncle et moi, un peu réunis par cette plante au milieu. Ça a fait que ce moment était vraiment particulièrement intense et qui nous a liés. Des gens de 80 ans qui fument, on n'en connaît pas tous. Bref, voilà, et vous faites des très bons podcasts en tout cas. Continuez.
On l'évoquait en intro, après de longs débats et reports, la France va finalement expérimenter le cannabis médical sur 3000 patients à compter du premier trimestre 2021. Une avancée majeure pour les patients qui militent en ce sens depuis de nombreuses années, et dans les rangs desquels on trouve un large nombre de seniors, on l'a entendu dans cette émission.
Le docteur Pascal Douek fait partie du comité scientifique mis en place par l'Agence nationale de la sécurité du médicament. À la fois médecin et malade, il vient de publier un ouvrage passionnant intitulé « Le cannabis médical, une nouvelle chance ». On lui a passé un coup de fil pour lui demander si, du point de vue du médecin, le cannabis a bien un intérêt particulier pour soigner les seniors.
Bah, écoutez,
Oui, pour une raison toute simple, c'est quand on regarde dans le projet d'expérimentation sur le cannabis médical, cette expérimentation va concerner 5 situations cliniques particulières. Donc la première, ce sont les douleurs neuropathiques sévères, donc ce sont des douleurs chroniques généralement consécutives à une maladie ou à une lésion neurologique. La deuxième indication, c'est les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses, les nausées, les vomissements, les pertes d'appétit. Et puis la troisième indication concerne les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement des malades en fin de vie. Quand on regarde ces 3 premières indications, on comprend bien que ce sont des indications qui sont majoritaires chez les seniors. Il reste 2 indications, ce sont les crises d'épilepsie de l'enfant, donc là on est chez l'enfant. Et puis la sclérose en plaques, qui est une maladie qui démarre en général aux alentours des 25-35 ans, mais qui s'aggrave avec le temps. Donc quand on va parler des seniors, dans ces maladies, les seniors en font partie.
Alors au-delà de ces pathologies très précises, est-ce que le cannabis peut avoir un intérêt d'un point de vue peut-être plus bien-être pour les personnes âgées ?
Je pense que les publications le montrent de plus en plus. Et quand on regarde dans les pays où le cannabis médical, voire le cannabis tout court a été légalisé, eh bien on s'aperçoit que les personnes âgées, les sujets âgés, sont de plus en plus consommateurs de cannabis, parce que comme vous l'évoquez, ils vont trouver effectivement un bien-être dans de leur anxiété, dans les troubles du sommeil dont on sait qu'ils se majorent avec l'âge, et puis aussi pour des petites douleurs. Voilà. Donc je pense que oui, il y a une place pour les seniors. Et en tout cas, cette place, les seniors se la sont attribuée dans les pays où le cannabis est autorisé.
Comment ça se passe pour une personne de 60-70 ans ? Comment on est initié au cannabis ? Est-ce que ça va passer par le biais d'un médecin qui va le recommander ? Par exemple, est-ce que vous, en tant que praticien, vous pouvez recommander à des seniors d'avoir recours au cannabis ? Ou est-ce que ça va passer peut-être par leurs petits-enfants parfois ? Comment ça se passe ?
En tant que médecin, on va pas jouer à recommander du cannabis, d'autant plus que ce cannabis est illégal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pas mettre nos patients en situation d'illégalité. Voilà, je pense que c'est un point difficile. À l'inverse, quand on a des malades qui nous annoncent qu'ils prennent du cannabis et que parfois ils ont réduit, voire supprimé les médicaments qu'on leur prescrivait pour la douleur, là, effectivement, c'est quelque chose où on ne va pas aller contre. On ne va pas leur dire « Non, attendez, c'est n'importe quoi, arrêtez ça tout de suite, reprenez les médicaments que je vous ai prescrits. » Mais il faut qu'on soit dans une relation de confiance où le patient nous ait annoncé les choses. En général, il ne l'annonce pas ou il l'annonce peu, parce que s'ils sont venus pour faire part de douleurs d'arthrose, de douleurs X ou Y, que leur médecin leur a prescrit les médicaments, le simple fait de ne plus les prendre au profit d'autre chose, ils n'ont pas envie d'en parler à leur médecin, parce qu'ils ont le sentiment, d'une certaine façon, de ne pas avoir respecté la prescription, voire même d'avoir trahi un peu leur médecin en essayant de jouer de leur côté avec l'utilisation d'un produit qui est jugé illégal.
Et une fois que ce dialogue est instauré avec le patient, quand vous dites que vous abondez dans son sens, quelle est exactement votre posture ? Comment vous réagissez ?
On va nous se préoccuper d'une chose, c'est quelle est la voie d'administration qu'ils utilisent. Moi, j'ai quand même, en tant que médecin, j'ai un vrai warning sur le fait de fumer du cannabis. Donc, si jamais ils utilisent effectivement une voie fumée, c'est-à-dire cigarette, joint, ça, on leur déconseillera de l'utiliser. Surtout qu'on est chez des seniors, c'est pas la peine de s'en rajouter, de se rajouter un risque d'avoir soit un problème pulmonaire, type cancer du poumon, soit un problème cardiovasculaire, type accident cardiaque. Donc, de déconseiller aux patients, à son malade de fumer et plutôt d'utiliser soit une forme vaporisée à l'aide d'un vaporiseur, soit d'essayer de l'amener à prendre des huiles. En dehors de cette situation, on est difficilement en posture de pouvoir les accompagner là-dessus. Pourquoi ? Parce que comme toute personne qui achète du cannabis de manière illégale, il ne sait pas ce qu'il achète. Donc comment voulez-vous qu'un médecin puisse interférer sur l'utilisation d'un produit qu'il ne connaît pas. Le médecin ne sait pas ce que prend le patient, mais le patient ne sait pas ce qu'il prend. Et le dealer, s'il y a un dealer derrière, il ne sait pas ce qu'il vend. Demain, quand il y aura l'expérimentation, on sera dans un contexte un petit peu différent parce qu'on aura un cadre médical, une autorisation pour certains médecins de prescrire et des produits qui seront disponibles dans certaines pharmacies. Vous voyez, le contexte aura un petit peu changé.
Vous évoquiez tout à l'heure de la recherche spécifiquement sur les usages et les intérêts du cannabis pour les personnes âgées. Qu'est-ce qui ressort de ces recherches-là ?
Là, ce qu'on sait pour ce qui est du cannabis, sur les études qui ont pu être réalisées sur les personnes âgées, c'est qu'il y a une très bonne tolérance. Il y a peu d'effets secondaires et peu de risques chez les personnes âgées. Chez le jeune adolescent, j'ai plus de risques de bénéfices. Vous voyez, parce que lui, il le prend à titre récréatif. Et là, effectivement, je suis préoccupé par les troubles cognitifs. Chez le senior qui souffre de douleurs importantes, par exemple, ou qui a une maladie ou qui a une chimiothérapie anticancéreuse, là, les troubles cognitifs vont souvent être mineurs par rapport aux bénéfices que le cannabis va lui apporter. Et surtout, je mets toujours en parallèle aussi le cannabis par rapport aux médicaments. Vous le savez, en France, il y a une consommation qui est de plus en plus importante de médicaments opiacés. Quand on voit les effets secondaires qu'ils ont, ça n'a rien à voir avec ceux du cannabis. Quand on regarde les benzodiazépines, donc tous les médicaments, Xanax, Valium, on sait que ce sont des médicaments qui ont des risques en termes de toxicité et des risques en termes d'addiction qui sont plus importants que ceux du cannabis.
Tout à l'heure, vous évoquiez la question de la fin de vie et des soins palliatifs, qui est donc l'une des dispositions prévues par l'expérimentation à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Les personnes en fin de vie sont confrontées à deux types de situations. La première, c'est une forme d'anxiété pour laquelle le cannabis apporte vraiment un apaisement. Deuxièmement, les symptômes que l'on va retrouver, c'est souvent des douleurs. Et le cannabis va agir sur ces deux types de symptômes. Donc, les équipes palliatives qui ont testé en France le cannabis et dans d'autres pays sur lesquels, effectivement, c'est légal, ont vraiment retrouvé une efficacité intéressante.
Et on rappelle le titre du livre du docteur Pascal Douek, « Le cannabis médical, une nouvelle chance », et ça vient de paraître aux éditions Solar.
Les cheveux tirés, le dos courbé et la démarche bien cadencée. Plastique sur la tête, sur sourcils et bien sûr le ciré. Le caddie rouge écossais qui a déjà quelques années. Et même dehors pour se déplacer, elle met des charentaises aux pieds.
Salut Banana Cash. Du coup, faut savoir que notre grand-mère a beaucoup de mal à dormir. Elle faisait souvent des terreurs nocturnes. On amenait souvent le sujet à table. Au début, en rigolant, en disant « Bah mémé, tu fumeras bien un petit avec nous, ça te fera bien dormir, etc. » Donc un jour, elle nous a demandé ce qu'elle pourrait prendre. On lui a plutôt fait essayer du CBD sous forme d'infusion et sous forme d'huile. On lui avait acheté un petit flacon d'huile. Donc elle prenait 2 gouttes le matin, 2 gouttes le soir. Et au bout d'une semaine, elle a recommencé à avoir des nuits complètes, à bien dormir. Elle a même commencé à refaire quelques grasses mats. Et depuis, on a ouvert notre shop qu'on a appelé le Kiff de Mémé en référence à cette petite histoire. Et notre première cliente, elle consomme à l'œil, hein, mais c'est notre grand-mère.
Tout le monde sait que dans le quartier, faut pas faire chier Mémé. Ça non, faut pas faire chier Mémé.
Faut pas faire chier,
hey, spécial dédicace à toutes les grand-mères de France. Hey, spécial dédicace à toutes les mamies du quartier. Hey, respect, hey, faut pas faire chier mémé.
Nous y voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Papy et Mamie Stoner.
Suite auquel vous ne regarderez plus jamais votre grand-mère de la même façon. Hein, quand elle prétexte une petite sieste pour s'éclipser. À d'autres.
C'était Banana Cush avec, comme toujours, Camille et Christophe au micro.
À la réal, elle n'est ni vieille ni stoneuse, c'est l'immense Charlène Nouilloux.
N'oubliez pas d'aller nous suivre, de lâcher des étoiles et des commentaires sur la plateforme de votre choix. On se retrouve dans 15 jours avec un grand entretien exceptionnel avec un ancien candidat à l'élection présidentielle.
On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Et on se retrouve aussi juste après le générique, comme d'hab, pour la banane de fin. Salut.
Ciao.
Les syndicats, chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, sticky, trip et joint, Hervé voyage au bout de l'acide, lysergique, dithylamide et la nuit.
Et ben voilà, c'est la banane de fin. Alors Camille, comme pour nos invités, tu choisis quoi ? Banane jaune ou banane verte ?
Alors la verte me tente bien, mais c'est thérapeutique, hein, bien sûr.
C'est vrai qu'avec tout le stress de cette période, cette rentrée chelou, les confinements, les couvre-feux, les bars et les clubs fermés, il nous reste pas grand-chose pour décompresser.
Bah attends, il y a quand même Nick la radio, Banana Cush, Faya, Allez le sang, tant d'heures de musique et de podcasts en perspective.
C'est vrai, c'est vrai.
Au fait, Christophe, à plus de 30 ans, tu te considères comme un senior ?
Eh oh, tu vas te calmer, toi.
Attention. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Hold up.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.